nos deux spécialistes, Étienne Brack, notre correspondant à Euronext, et John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour à tous les deux. Étienne, la séance vient de démarrer aux États-Unis.
Bonjour à tous.
Comment est-ce qu'elle est orientée ?
Écoutez, c'est assez mitigé puisque vous avez un indice S&P 500 qui est parfaitement stable à 5062 points. Le Dow Jones prend 0,5% grâce notamment au secteur bancaire. Nous en reparlerons dans un instant avec John. Un Dow Jones qui est à la porte des 38 000 à 37 954 points quand le Nasdaq de son côté cède 0,1%, toujours sous pression de l'obligataire, hein, 4,68 pour le 10 ans américain. Comme hier, il est sur des plus hauts de novembre dernier quand le 2 ans de son côté flirte avec les 5% à 4,96. L'once d'or qui est toujours proche de la barre des 2400 dollars à 2392 dollars quand l'euro essaye de se stabiliser face au dollar à 1,0634. Du côté des valeurs, souvenez-vous, Tesla avait perdu hier plus de 5% avec un plan de réduction massive des effectifs. Eh bien, le titre continue de reculer de quasiment 3% dans les premières secondes de cotation. La valeur passe d'ailleurs sous les 500 milliards de capitalisation boursière. Apple, qui était en baisse hier, continue également de lâcher du lest, moins 0,4% à 171 dollars quand Microsoft essaye de se reprendre. Idem pour Nvidia avec une hausse de 0,6%. À noter aujourd'hui une journée qui sera importante pour les investisseurs avec une prise de parole de Jerome Powell. Quels seront ses commentaires par rapport à la normalisation de la politique monétaire à venir et puis surtout sa réaction par rapport aux nombreuses statistiques que nous avons pu avoir ces derniers jours, que ce soit l'inflation ou encore les ventes au détail hier. Donc ça sera bien sûr à suivre aujourd'hui lors d'un colloque. En attendant, vous avez une tendance mitigée donc à Wall Street avec un S&P 500 qui est parfaitement stable, le Dow Jones plus 0,5%, le Nasdaq moins 0,2%.
Et à Paris, le CAC perd 1,2%, nettement en dessous de la barre des 8000 points. On y reviendra bien sûr tout à l'heure à 16h. On fera un point complet sur le marché parisien. John, hier on s'interrogeait sur la vigueur de l'économie américaine après les ventes au détail. On a eu aujourd'hui d'autres publications macroéconomiques. Qu'est-ce qu'il faut penser des mises en chantier et de la production industrielle ?
Bah écoutez Stéphane, d'abord une petite alerte sur le secteur immobilier américain parce que les mises en chantier de logements aux États-Unis ont chuté de 14,7% et ça représente le niveau le plus bas depuis le mois d'août et la plus forte baisse, tenez-vous bien, depuis avril 2020. Vous vous souvenez, on avait le Covid à l'époque. Donc on voit ici que la hausse des taux hypothécaires pèse bien évidemment sur les acheteurs potentiels. Donc petite alerte ici sur l'immobilier américain. D'un autre côté, ça se passe toujours bien sur la croissance américaine. On a eu les chiffres de la production industrielle de mars qui sont sortis. On est à plus 0,4%. Le mois précédent, on était aussi à 0,4%. Et le consensus attendait aussi 0,4%. Donc des chiffres pile poil en ligne. Mais ce qui montre toujours une vigueur, une croissance sur la production industrielle américaine. Ce qui prouve que le premier trimestre américain devrait largement être au-dessus de la barre des 0%. Je vous rappelle que les estimations pour le premier trimestre qui vont bientôt sortir font état d'une croissance aux alentours de 2,5% pour les États-Unis.
Étienne, les Américains sont des consommateurs, on l'a encore vu hier avec la surprise des ventes au détail. Et en termes de perspective, on a également des chiffres qui sont plutôt de bon augure pour la consommation. Ça concerne les voyages.
Et oui, les voyages qui sont très résistants, John Plassard, que ce soit en Europe, on l'a vu avec EasyJet qui s'attend à une année record, un très bel été, mais aux États-Unis aussi. Il suffit de voir d'ailleurs les chiffres d'inflation la semaine dernière, le prix des billets, des nuitées d'hôtel continue d'augmenter.
Oui, tout à fait. Et puis, Étienne, on voit que selon une étude très précise du Conference Board aux États-Unis, vous avez une proportion record de consommateurs américains qui prévoient de partir en vacances dans un pays étranger au cours des 6 prochains mois. Alors pourquoi ? Le Conference Board met notamment le doigt sur le fait qu'on a eu une forte hausse des marchés boursiers. Les Américains ont toujours de l'épargne du Covid. On parle encore une fois du Covid. Et puis, eh bien, il y a toujours cette volonté de dépenser. On a vu notamment sur l'utilisation record des cartes de crédit aux États-Unis. Eh bien, pour l'instant, ça se passe très bien au niveau de la consommation. Il faut rappeler ici une dernière fois que la consommation, c'est quand même 73% du PIB américain. Donc si les Américains consomment, eh bien la croissance va aller avec.
Nous sommes à 202 jours de l'élection présidentielle américaine. On va s'y intéresser quelques minutes, comme on le fait tous les jours. L'information de ce mardi, John Plassard, c'est que Donald Trump est en chute dans les sondages. Est-ce que ça a un rapport avec son actualité judiciaire ?
Alors, oui et non. Oui, parce que on savait, selon les anciens sondages, que si Donald Trump devait aller au pénal, ce qui a été le cas depuis hier, eh bien, les Américains seraient moins à même de voter pour lui. Et non, parce qu'on a des sondages qui montrent qu'on a une espèce de baisse de cette euphorie sur Donald Trump. Alors d'abord, on a un sondage de Reuters Ipsos qui montre qu'à moins de 7 mois, vous l'avez dit, de l'élection présidentielle américaine, eh bien, Biden a étendu son avance de 4 points en avril, 41% pour 37% sur Trump. Donc on voit qu'il y a un retournement de tendance. Mais évidemment, un sondage ne veut rien dire. Et si on prend un autre sondage du New York Times, eh bien, on voit que Donald Trump et Joe Biden sont pratiquement à égalité, alors que en mars, Donald Trump était en avance à 48% contre 43% contre Biden. Donc on voit qu'il y a un retournement net de la tendance des sondages. Et ici, c'est certainement dû, comme vous l'avez dit, aux questions juridiques concernant Donald Trump. Et on rappelle que les Américains n'aiment pas le changement et préféraient une certaine stabilité avec les interrogations qu'on a, notamment sur l'inflation aux États-Unis.
On passe à l'actualité entreprise, Étienne, avec des résultats publiés dans le secteur financier aux États-Unis.
Et oui, ça continue. Hier, Goldman Sachs, aujourd'hui Bank of America, qui perd 1,5% aujourd'hui, John Plassard. Et pour cause, le titre baisse à cause d'une augmentation des provisions. Forcément, avec la remontée des taux, il y a un risque de défaillance un petit peu plus important.
Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment ça la surprise. Les résultats n'étaient pas si mauvais que ça. Les résultats étaient notamment dépassés par rapport au consensus sur le bénéfice et les chiffres d'affaires. Mais vous l'avez dit, les provisions, la banque a constitué des provisions à hauteur de 1,3 milliard de dollars au premier trimestre contre 931 millions il y a exactement une année. Donc on voit que ça a un impact et il y a des craintes, on l'avait vu dans le message notamment de JP Morgan vendredi, des craintes qu'on ait une dégradation de la qualité des prêts ces prochains mois à cause des taux qui sont trop élevés.
Toujours dans le secteur financier, John, les bénéfices de Bank of America reculent en raison de l'augmentation des provisions.
Oui, tout à fait. On vient d'en parler, Stéphane, mais je pense que vous parliez de Morgan Stanley qui, eux, on l'a vu, les bénéfices sont supérieurs aux prévisions, notamment grâce à la reprise des activités de la banque d'investissement menée notamment sur les souscriptions d'actions dont les revenus ont plus que doublé. Vous avez les revenus de la banque d'investissement qui ont grimpé de 16% par rapport à l'année précédente. Mais si vous regardez les résultats de plus près, bien on voit que Goldman Sachs a fait mieux que Morgan Stanley, mais les résultats sont tout de même salués pour Morgan Stanley aujourd'hui.
Étienne, toujours au chapitre des publications, c'est la saison, on a eu des chiffres trimestriels de Johnson & Johnson.
Oui, Johnson & Johnson qui a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Que pensez de cette publication, John Plassard, sachant que le titre est aujourd'hui la plus forte baisse de l'indice Dow Jones, moins 1,7%.
Il faut savoir, il y a qu'une question à se poser pour Johnson & Johnson. Ils ont un médicament phare contre le psoriasis, qui s'appelle le Stelara. Eh bien, ses ventes ont été inférieures aux attentes. Et donc, effectivement, c'est une nette déception puisque le titre est aussi dépendant d'autres produits qui ont mal fait durant les trimestres précédents. Donc ici, c'est une déception sur le titre et le titre devrait continuer de baisser ces prochaines semaines.
Et puis on va terminer par une autre publication. Il faut que je retrouve ma feuille. C'est un petit peu le bordel dans mes feuilles, vous l'avez compris. On va parler de United Health, John, qui a subi un impact de 872 millions de dollars sur son bénéfice du premier trimestre en raison de perturbations qui ont été causées par une cyberattaque. C'est très concret.
Oui, tout à fait. Une cyberattaque de février dernier. Vous vous en rendez compte, 872 millions d'impact à cause d'une cyberattaque. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que le coût pourrait atteindre jusqu'à 1,6 milliard de dollars sur l'année. Mis à part ça, la société a publié des résultats qui étaient supérieurs aux attentes au premier trimestre, mais évidemment, les gens se focalisent sur les provisions qui vont être mises en place à cause de cette cyberattaque.
Et puis, on termine avec vous, Étienne, Lockheed Martin, qui a remporté un contrat du gouvernement américain.
Oui. Un contrat, et donc ça permet à la valeur de surperformer très légèrement la tendance aujourd'hui. Alors on est loin des 5% de variation comme United Health, mais c'est important quand même pour cette valeur aujourd'hui, John Plassard, d'autant plus que malheureusement depuis le conflit, ces valeurs, on la cote en bourse.
Oui, tout à fait. Et puis, il faut rappeler, ce contrat est quand même de 17 milliards de dollars. C'est un énorme contrat. Et ce contrat concerne la prochaine génération d'intercepteurs destinés à défendre les États-Unis. Vous savez, le fameux bouclier antimissile contre une attaque de missiles balistiques intercontinentaux. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Eh bien, potentiellement, la Corée du Nord, l'Iran ou d'autres pays. Mais c'est un joli contrat dans une situation, évidemment, qui est très compliquée au Proche-Orient et en Ukraine, puisqu'on a un conflit en cours actuellement.
Merci beaucoup, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau.